Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. À moins d'habiter dans une grotte, vous avez tous et toutes plus ou moins suivi l'actualité politique de ces dernières semaines sur fond de retraite, de manifestations et de 49-3 brandis devant une assemblée plus que jamais divisée. Laissons de côté la réforme des retraites aujourd'hui, ce n'est pas au programme. Demandons-nous plutôt comment ce Parlement va-t-il sortir de cette crise après une motion de censure rejetée à seulement 9 voix. Sur quel mode l'Assemblée va-t-elle continuer à fonctionner alors que le mandat d'Emmanuel Macron achève à peine et avec peine, j'ai envie de dire, sa première année. Parce que, disons-le clairement, les semaines et les mois à venir promettent elles aussi leur lot de clivages, à commencer par le nouveau projet de loi sur l'immigration, l'intégration et l'asile présenté en Conseil des ministres le 1er février dernier et qui entre actuellement bientôt, en tout cas à l'Assemblée. Une énième loi sur l'immigration, direz-vous, et vous avez raison. En 30 ans, de la loi Pasqua de 86 à la loi Collomb de 2018, une vingtaine de lois se sont succédées. Tous les gouvernements depuis, sans exception, ont promulgué des textes touchant à l'immigration, à l'asile ou à la nationalité, voire à plusieurs de ces sujets en même temps. À l'aube d'un nouveau débat qui s'annonce chargé d'idéologie, nous vous proposons de démazouter un peu tous les grands concepts de l'immigration pour mieux les réinterroger dans le contexte actuel. Notre invité est chercheur en sciences politiques au CEPEL. Il a publié dernièrement un ouvrage intitulé « 10 questions sur l'immigration » chez De Bock Supérieur. J'espère que je prononce bien. Éric Savarez, bonjour.
Bonjour.
J'ai bien prononcé la maison d'édition ?
Tout à fait.
Super. Insérée, intégrée, assimilée, naturalisée, elle est tout à la fois sur Divergence FM. À mes côtés pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
Alors, pas de reportage cette semaine pour laisser plus de temps à cette longue interview. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors Éric Savarez, on va détailler plus ou moins les 10 questions que vous avez vous-même posées dans votre ouvrage. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la différence entre immigrés étrangers et réfugiés ?
Tout à fait. Alors étranger, ça se définit tout simplement par quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Un immigré, c'est quelqu'un qui rentre en France. En principe, la raison, c'est le travail. Lorsqu'il arrive en France, donc il est né étranger à l'étranger, lorsqu'il s'installe en France, au bout de quelques années, il peut demander la nationalité française. Ça sera toujours un immigré parce qu'il est né étranger à l'étranger, mais un immigré, ça peut être étranger ou devenir français. Les réfugiés, ce sont ceux qui demandent l'accès sur le sol français parce qu'ils sont persécutés dans le pays où ils vivent. On a vu les Syriens, les Ukrainiens. Et là, ce n'est pas de l'immigration, c'est du droit d'asile. D'où la distinction entre ces trois catégories.
Alors, dans l'introduction de votre livre, vous évoquez des termes comme arrêt de l'immigration, fermeture des frontières. Est-ce qu'on est aujourd'hui un pays aux frontières fermées ?
Tout à fait. Je pense que j'ai commencé par ça parce qu'il me semble qu'il y a une dissonance. C'est-à-dire que pendant les 30 Glorieuses, on fait rentrer massivement de l'immigration pour les besoins liés au marché du travail. Et à partir de 1974, les frontières sont fermées. Et pendant qu'on avait beaucoup d'immigration, c'était la solution. Depuis qu'elles sont fermées, c'est un problème. Cherchez l'erreur.
Et pourtant, aujourd'hui, il y a presque 7 millions d'immigrés en France, soit 10% de la population. C'est plus qu'en 1975. Comment on peut l'expliquer, ça ?
J'ai cité volontairement ces chiffres. Effectivement, ça a augmenté. Pas parce que les frontières sont ouvertes et que rentrent de nouveaux immigrés, mais tout simplement parce qu'il y a la procédure dite du regroupement familial. Donc, ça commence toujours par du travail, en principe des hommes. Et puis, la deuxième séquence, c'est une immigration plus féminine, plus jeune, et qui fait que le regroupement familial a évidemment accru le nombre des immigrés. Ajoutez à ça les étudiants, c'est quand même 30 000 par an. Ajoutez à ça quelques renouvellements de titres de séjour, vous avez en gros 150 000 entrées en France au titre de l'immigration, mais tout poste compris.
Alors, donc on va rentrer progressivement dans votre ouvrage. Donc la première question que vous posez, c'est comment la France est-elle devenue un pays d'immigration ? Alors vous racontez dans ce chapitre un passage que je ne connaissais pas et vraiment super intéressant de l'histoire de France. On est au milieu du 19e siècle, c'est la période où pour la première fois l'immigration va être posée comme un problème politique parce que sur le marché du travail, les travailleurs étrangers sont préférés aux travailleurs français. Alors pourquoi ?
Alors, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, les travailleurs français avaient été astreints à des obligations militaires qui étaient chronophages, c'était 3 ans. tandis que les travailleurs étrangers n'étaient pas astreints à ces obligations militaires. Donc les employeurs préféraient prendre des gens qui ne quitteraient pas leur poste de travail. Et donc, ça crée une sorte de concurrence déloyale, d'où des maires, des députés, etc., qui sont saisis, et c'est ce qui va donner la première tentative d'instaurer le droit du sol en 1851, même si cette loi n'était pas très bien faite et n'a pas réglé le problème.
Alors cette loi, finalement, elle passe vraiment en 86, c'est ça, la loi du droit du sol?
1889, la seconde.
1889, pas 86.
La seconde, alors celle-là, il y a un historien qui s'appelle Noiriel qui dit 1889, c'est aussi important que 1789. Bon, pourquoi elle est importante, celle-là? Parce qu'elle fixe durablement le droit de la nationalité. Les grands principes de ce texte sont encore en vigueur aujourd'hui, avec évidemment des crises. Il y a eu Vichy, il y a eu un certain nombre de choses, mais les grands principes sont restés en place depuis. C'est-à-dire, la première génération n'a pas droit à la nationalité française, on ne peut l'avoir que par la naturalisation. La deuxième devient française, on devient français à 18 ans. À la troisième, c'est à la naissance. L'idée, c'est de dissoudre la question de l'immigration sur deux générations.
Et alors, en quoi ce droit du sol, justement, il fait émerger la notion de national-citoyen?
En quelque sorte, à la fin du XIXe siècle, la France devient à la fois une société d'immigration, c'est-à-dire une société où on va petit à petit acquérir des vagues d'immigration. Il y a eu des Belges, des Italiens, des Portugais, et puis bon, etc., etc. Des Kabyles, fin XIXe. Mais en même temps, la construction de l'État-nation est achevée. C'est-à-dire qu'il y a un État qui développe un projet national. Un État-nation, ce n'est pas fait pour incorporer. Mais il y a aussi une société d'immigration. Et là, évidemment, cet État-nation s'est construit avec cette idée qu'il fallait des cartes de séjour, des titres de résident, un contrôle des étrangers, ce qui n'existait pas avant. Au milieu du XIXe siècle, personne ne fait de statistiques sur les étrangers. On a commencé à en faire un problème, en quelque sorte, le jour où on les a comptés. De même, on n'a pas toujours mesuré le chômage, on n'a pas toujours mesuré l'inflation, on n'a pas toujours compté le nombre d'immigrés ou d'étrangers.
Alors ça nous fait une transition justement vers votre deuxième question. Alors comment le comprendre, le choix du droit du sol? Vous faites la comparaison, donc la France a choisi le droit du sol comme les États-Unis, à la différence de l'Allemagne qui, elle, choisit le droit du sang. Donc pour expliquer cette différence, vous dites en gros, quand on est une société d'immigration, comme celle qui s'est construite au XIXe siècle, on crée un droit du sol pour pouvoir intégrer ces immigrés. Quand on est un pays d'émigration, pardon, comme l'Allemagne, on crée un droit du sang pour pouvoir rapatrier ses ressortissants, entre guillemets, en tout cas les réintégrer. Alors, vous évoquez justement un premier coup de couteau dans ce droit du sol en France avec la loi Pasqua de 93. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, la loi Pasqua de 93, elle remettait pas en cause formellement le principe du droit du sol, puisqu'on pouvait toujours devenir français à la seconde génération. En revanche, ça n'était plus complètement automatique, puisque pour avoir la nationalité à 18 ans pour les enfants d'immigrés, il fallait faire une déclaration de volonté. Alors, à l'époque, la majorité, qui était une majorité RPR, UDF, sauf erreur, vous savez, ça a beaucoup changé depuis, disait, après tout, la conception française de la nation, elle est fondée sur Renan, sur la volonté, donc il n'est pas scandaleux de demander la volonté. Par contre, de l'autre côté, dans l'opposition, il y avait des voix qui s'élevaient pour dire « Oui, mais on n'a pas demandé ça aux Belges, on n'a pas demandé ça aux Italiens, on n'a pas demandé ça aux Portugais, et on demande ça à la dernière génération, c'est une manière de traiter des vagues d'immigrés de manière pas très très égalitaire. »
En outre, l'immigration maghrébine, notamment.
Y a effectivement la question de l'immigration maghrébine, mais vous savez, ça ne représente pas l'ensemble des immigrés.
Et donc, voilà, ça instaure l'idée que pour devenir citoyen français, ils doivent faire une demande, faire une démarche à 18 ans pour...
Tout à fait, une déclaration de volonté. En plus, on a pu évaluer après comment ce texte avait produit des effets. Si l'information circule mal, il y a des gens qui ne savaient pas qu'il fallait faire la déclaration de volonté. Donc, ils ne l'ont pas demandé. Après, ils font passer par la naturalisation. Et oui, ça, c'est une procédure contraignante.
Donc, on se retrouve avec des gens qui sont nés sur le sol français et qui, finalement, n'ont pas la nationalité française.
Ça ne s'est pas toujours très, très bien passé selon comment l'information circulait, notamment alors, à l'échelle des quartiers, des maisons de quartier, des municipalités, enfin des différentes institutions.
Et c'est la loi Guigou qui va venir du coup assouplir ça en 98.
Voilà, la loi Guigou, elle est inspirée d'un rapport sur la nationalité et l'immigration qui avait été commandé par Lionel Jospin à Patrick Veil et qui, lui, a restauré la possibilité de devenir français à 18 ans de manière automatique, mais en essayant de chercher une synthèse, c'est-à-dire en essayant de chercher à ce que la volonté individuelle ou la liberté individuelle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 13 et 16 ans, un enfant peut demander à devenir français de manière anticipée avec l'autorisation de ses parents, et entre 16 et 18 ans, il peut le faire de plein droit, librement. C'est-à-dire que si vous voulez manifester votre volonté d'être français, vous en êtes libre, mais on ne vous impose pas une déclaration de volonté. Disons que le texte recherche une sorte de synthèse.
Et par contre, elle introduit le droit de ne pas être français, de déclarer du coup qu'on ne veut pas de la nationalité française.
Il y a toujours une possibilité de répudiation. C'est prévu notamment parce que si des immigrés décident de retourner dans leur pays d'origine, entre guillemets, si les enfants veulent les suivre, il faut qu'ils puissent avoir la nationalité du pays où ils vont arriver. Donc à ce moment-là, ils peuvent répudier la nationalité française, mais c'est quand même très rare.
Alors toute cette histoire-là, elle éclaire justement, elle éclaire évidemment le présent. Vous dites qu'on assiste aujourd'hui à une réactivation de cette remise en cause du droit du sol. Alors comment et pourquoi ?
Bah écoutez, l'année dernière, vous avez écouté la campagne électorale comme moi. J'ai entendu l'immigration, c'est problème, l'immigration ceci, l'immigration cela. Mais quand vous faites rentrer en France à peu près 25 à 30 000 immigrés au titre du travail par an, on est quand même dans une situation où depuis un demi-siècle, les frontières sont fermées. Donc s'il y a problème, c'est pas là-dessus. Alors, est-ce que c'est le vivre ensemble ? Est-ce que c'est la citoyenneté ? Est-ce que c'est tout ce qu'on voudra ?
On va
en rediscuter. Mais s'il y a problème, ce n'est pas tellement sur le nombre d'immigrés qu'on fait rentrer au titre du travail, c'est très clair. Par contre, il y a une candidate, Mme Pécresse, pour ne pas la nommer, qui avait proposé de revenir sur l'acquisition automatique de la nationalité à la seconde génération. Bon, est-ce que c'est de bon ton ? Je n'en sais rien, mais revenir sur l'automaticité du droit du sol, ça voudrait dire faire comme si la France était devenue un pays d'émigration, ce qui n'est pas le cas. Puisque ce sont les pays d'émigration qui ont besoin justement de réincorporer.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure dans une de vos réponses la naturalisation. Donc, vous consacrez un chapitre dans le livre à cette question-là, qui est une procédure d'acquisition de la nationalité française. En France, on parle de naturalisation discrétionnaire. Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire que finalement, il y a deux catégories. Normalement, il y a ce qu'on appelle la naturalisation droit. C'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les sociétés d'immigration, États-Unis, Australie, etc. Au bout de quelques années, si vous n'avez pas un casier judiciaire, des ressources suffisantes, c'est quasiment de droit que vous allez devenir américain. Ce sont des sociétés qui ont été faites pour incorporer. La naturalisation discrétionnaire, en principe, ça correspond plus à ce qu'on appelle l'État-nation, à savoir l'État considère qu'il est libre de l'attribuer ou pas, que l'individu ait les critères, satisfasse aux critères qui sont posés ou pas. C'est considéré comme une sorte de faveur, si vous voulez.
Alors justement, les critères, vous parlez aussi d'une procédure administrative qui peut s'avérer décourageante pour les postulants. En pratique, comment on peut l'obtenir, cette naturalisation, pardon ?
Il faut déposer un dossier. Ensuite, évidemment, il y a une enquête de police qui est faite. Il y a des tas de pièces qui sont demandées, d'état civil, etc. Il faut avoir des ressources suffisantes. Il faut aussi affronter ce qu'on appelle les guichets de l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut aller en préfecture une fois, deux fois, trois fois. Si les pièces du dossier ne sont pas dans l'ordre, il peut être rejeté. Il y a tout un tas de maisons de quartier ou d'associations qui aident les postulants à construire le dossier de telle façon qu'il soit acceptable. Tout ça, ça prend du temps. S'il y a des pièces qui sont en langue étrangère, il faut les faire traduire. C'est 50 euros la page. S'il faut faire des tests de langue, c'est pareil, etc. etc. Donc, bon, c'est une procédure assez contraignante qui font que certains abandonnent.
Et certains abandonnent, justement, vous donnez une estimation de le nombre de la proportion de procédures qui aboutissent par rapport à celles qui pourraient aboutir. Combien il y en a qui justement là.
Si vous regardez le chiffre, il faut lire ça comme les chiffres de réussite au bac, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres, c'est 2/3 des postulants qui obtiennent la naturalisation. Donc ça serait plutôt une naturalisation ouverte. Le seul problème, c'est que comme il y en a au milieu qui abandonnent, ceux-là, ils ne sont pas dans les statistiques. Et c'est un peu comme le bac, en fait. C'est 90% de réussite, mais quid de ceux qui sont sortis en seconde ou en première, ceux-là, ils disparaissent des statistiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires, mais ça existe aussi.
Alors, le quatrième chapitre, on passe un peu au pas de course. Le quatrième chapitre, vous le consacrez à l'incorporation de la nation. Alors, vous reprenez les notions d'insertion, d'intégration, d'assimilation et vous montrez comment ils se sont chargés d'idéologies différentes en fonction du contexte. Vous revenez notamment sur l'association, donc Immigration Maghrébin Musulman. On invite vraiment les auditeurs à aller lire ce livre. Il est passionnant, on ne peut pas tout détailler. Peut-être juste, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le... Je vois qu'on a un peu de temps... Sur la notion d'assimilation, parce que c'est vrai que c'est un terme qui aujourd'hui est connoté donc, très négativement. C'est quoi l'histoire un peu de ce terme d'assimilation dans la politique française ?
L'assimilation, c'est connoté négativement parce qu'il y a une sorte de relent colonial. Vous savez que quand on parlait des politiques coloniales, on disait toujours qu'il y a le gouvernement indirect rule britannique, où on est censé préserver la diversité culturelle des indigènes, et puis la politique française qui aurait été définie comme assimilationniste, c'est-à-dire il faut en faire des gens qui se dissolvent dans la société française. Qui dit assimilation dit en principe dissolution des différences. Or, dans la réalité des politiques coloniales, c'est pas aussi simple que ça. Loin s'en faut. Tous les indigènes n'étaient pas scolarisés, etc. etc. Mais enfin, Ce terme-là, à partir du début des années 80, il a commencé à avoir une sorte de relent négatif. C'est le côté un peu, ça fait un peu le autoritaire, ouais. Deviens comme moi, abandonne tout de ce que tu es, etc. Donc, et puis, le poids de l'histoire coloniale, je dirais. Donc, il a été remplacé par la notion d'intégration, qui, elle, évidemment, au départ, c'est une notion sociologique. Mais aujourd'hui, elle est tellement connotée dans des débats, notamment pour une raison très simple, c'est qu'elle est toujours associée à la notion d'immigration. Or, l'intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire une notion qui a été fabriquée par un sociologue qui s'appelle Durkheim pour penser le passage de la communauté à la société ou des sociétés anciennes aux sociétés modernes. Ça concerne tout le monde, pas simplement l'immigration. Si vous le limitez à ça, vous le videz en quelque sorte de son sens ou en tout cas, vous en faites quelque chose d'un peu galvaudé.
Et oui, vous parlez notamment donc en revenant sur Durkheim, vous dites comment finalement ce terme d'intégration avant pouvait être attribué notamment aux paysans ou à des populations pauvres, justement pour simplement comment on crée cette cohésion sociale.
Bien sûr, la République est allée vers les paysans parce que les paysans ils étaient bonapartistes ou monarchistes, que la République aurait pu être balayée dans les urnes très facilement. Et il a fallu les amener à, de même qu'il a fallu intégrer des tas d'individus. Ça peut être les paysans, quand on parle de chômeurs qui sont dans des situations dites où le sens de la vie collective se dissout, ben, on parle de problèmes d'intégration sociale, ça ne se joue pas que sur la question de l'immigration. Ça en fait partie, mais ce n'est pas la seule population concernée.
Alors justement, donc vous arrivez donc sur la question de la politique d'immigration. Comment on choisit une politique d'immigration? Selon vous, il y a deux choix, deux postulats dans une politique d'intégration, soit la sélection individuelle, soit la sélection collective. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux stratégies?
La sélection collective, c'est celle qui a été prônée notamment par des auteurs racistes, par exemple Dr Martial ou par exemple Georges Moko, etc., qui considéraient qu'il y avait des populations assimilables, donc qui pouvaient faire l'objet d'une immigration, d'autres qui étaient inassimilables dans la société française, donc qu'il ne fallait pas accepter. La sélection individuelle consiste à dire on a besoin d'un maçon, on va prendre un maçon, mais pas regarder ses origines ethniques, sa confession religieuse, etc. Ça se joue sur le besoin, par exemple sur le marché du travail.
Aujourd'hui, on est dans quel type?
La tradition républicaine, c'est la sélection individuelle, bien sûr. Maintenant, vu que les frontières sont fermées, vous savez, la question aujourd'hui, la politique de l'immigration, parce que dans le chapitre en question, j'avais parlé de ça, ça s'analyse à la fois par la gestion de la frontière, est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée, et par la naturalisation. Et c'est-à-dire restreinte ou plutôt ouverte. Et si vous avez ces deux variables avec deux modalités, vous avez en quelque sorte les quatre grandes politiques de l'immigration qu'on a pu élaborer depuis un siècle, plus un siècle et demi.
Et justement, c'est parfait, vous faites la transition, vous montrez que quand on a fermé les frontières, donc au début des années 90, donc on ferme les frontières en disant on va accroître la naturalisation justement pour améliorer les conditions de vie des gens qui sont là, etc. Finalement, ça ne s'est pas tout à fait traduit comme ça, parce que la fermeture des frontières a instauré un contrôle des immigrés finalement.
Disons que la fermeture des frontières, c'est aussi, vous avez parlé d'une vingtaine de lois depuis 30 ans, c'est aussi des conditions de plus en plus restrictives. Alors, il y a eu des avancées, par exemple le titre de séjour unique de 10 ans en 83, sauf erreur de ma part, c'était Mitterrand qui l'avait promis à Chadli. Mais effectivement, il y avait l'idée d'améliorer la situation matérielle des immigrés, mais en situation de crise et des arbitrages budgétaires, bon, c'est difficile. Et puis il y avait l'idée que si les frontières étaient fermées, on allait faciliter la naturalisation pour leur permettre de vivre en France dans des conditions décentes. Bon. Ça a donné parfois. Alors, ça donne une naturalisation relativement ouverte, on est à deux tiers, mais avec le biais que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, la situation est, je dirais, pas optimum.
Alors, vous avez également dans votre ouvrage tout un chapitre où vous évoquez l'influence de l'Europe sur les politiques de l'immigration. Donc, au sein de l'espace Schengen, les frontières, elles peuvent être franchies librement. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales en termes de politique d'immigration entre les pays européens?
Il y a des différences. Alors, si vous voulez, sur le plan en général, la politique européenne consiste à dire on ferme les frontières extérieures de l'Europe. Donc, c'est tout simple. Si à partir du moment où il y a un espace Schengen, s'il y en a un qui laisse rentrer, ensuite ils circulent où ils veulent. Donc, l'idée, c'est que tout le monde ait une politique frontière fermée. Là, il y a une influence forte de l'Europe sur les politiques de l'immigration. Par contre, chacun peut choisir de la manière dont il veut accueillir des immigrés quand il en rentre. Est-ce qu'on va leur imposer des cours de langue? Est-ce que la naturalisation va être plus ou moins souple? Est-ce qu'elle va être droit, discrétionnaire, etc. Ça relève de l'État qui ne disparaît pas.
Et dans ce chapitre aussi, vous dites qu'après les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu une tendance aux restrictions et à une vision ethnicisée de la citoyenneté qui s'est affirmée. Qu'est-ce que ça a changé en termes d'immigration?
Ben, ça change qu'il y a une sorte de méfiance qui s'est instaurée dans un certain nombre de pays. Ça passe par exemple par plusieurs pays. Ça s'est présenté en France, ça existe aux Pays-Bas aussi. Donc des pays avec des modèles de citoyenneté assez différents. Ça se voit par exemple aux multiplications de propositions autour de la déchéance de nationalité. Ça se voit par exemple autour de mesures de ce type qui montrent qu'il y a une sorte de méfiance qui s'est instaurée où on a parfois réexprimé une vision un peu ethnique de la citoyenneté.
Alors, tout ça pour arriver au chapitre 8, le modèle de citoyenneté est-il en crise ? Alors, cette question, elle est intéressante, parce qu'effectivement, on en entend toujours parler. On aurait toujours un modèle de citoyenneté en crise. Alors, d'abord, sur quoi il repose, notre modèle de citoyenneté en France ?
Alors, le modèle de citoyenneté en France, c'est ce qu'on appelle le modèle républicain. Il repose sur trois caractéristiques. Un, individualiste. Ça veut dire que quand on fait... les droits ne peuvent être attribués qu'à des individus, pas à des groupes. Les minorités n'existent pas. Deux, il est universaliste parce qu'il ne considère que des individus égaux en droit. Et trois, regardez quand on a fait la loi, par exemple, sur le mariage pour tous, qu'est-ce qu'on fait ? On universalise un droit. C'est pas une loi sur le mariage homosexuel. Voilà, des individus peuvent bénéficier de ce droit s'ils le souhaitent, quelle que soit leur appartenance. Troisième pilier, la laïcité, c'est-à-dire l'État est neutre en matière religieuse, il finance pas les cultes et en échange, évidemment, il garantit la liberté de conscience et de culte. Donc ça, c'est les piliers. Alors ensuite, depuis quelques années, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde défend la République, tout le monde défend la laïcité. La République, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Les autres qui s'appellent les Républicains. Le Rassemblement National nous explique ce que c'est la laïcité. Donc on croit rêver. En réalité, j'ai un peu de liberté de temps.
Tant mieux, allez-y, on est sur
En réalité, je pense que cette idée selon laquelle la citoyenneté sera en crise, elle me pose un petit problème. Dans tous les pays européens, quels que soient les modèles de citoyenneté, il y a un modèle plutôt républicain en France, en Allemagne et en Italie. Mais si vous regardez les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, etc., dans à peu près tous les pays, on trouve à peu près les mêmes questions de marginalisation urbaine, de défiance à l'égard de l'islam, de crise sociale, etc., quel que soit le modèle. Donc si c'est lui qui était en cause... La crise des banlieues, c'est l'exemple dont je parle dans le livre, mais bon, il n'y a pas que celui-là. Si c'est le modèle qui était en cause, pourquoi on aurait des problèmes comparables de ce point de vue-là ?
Alors, on le développe un tout petit peu, justement, cet exemple de la crise des banlieues de 2005 que vous développez. Finalement, on en a très peu entendu parler comme d'une crise sociale. On en a entendu parler comme d'une crise d'intégration.
Oui, on en a parlé comme d'une crise de l'intégration. On en a fait une lecture identitaire. On nous a expliqué que c'était la faute de la polygamie. On nous a expliqué... Je vois pas très bien le lien entre la polygamie et brûler des voitures, mais bon, trouvez-moi un lien logique entre les deux. Mais en réalité, ça a quand même été étudié après de près par des sociologues qui ont montré que, il y avait quand même une grosse différence par rapport à ce qu'on avait dans les années mai 68, etc. C'est pas du tout un problème par rapport à la société de consommation, c'est pas du tout un problème par rapport à l'économie de marché. C'est des gens qui veulent accéder à cette société, consommer. C'est
pas pas de remise en cause de l'ordre, en fait. Il y a une volonté d'accéder.
Bien sûr. C'est pas pour rien si la marque au crocodile se vend bien dans les cités. C'est un bon signal d'intégration à l'économie de marché, si je puis dire. Ou d'adhésion, en tout cas, d'intégration, le terme est mal choisi, pardon.
Alors, justement, pour autant, la France doit aussi se poser la question de sa diversité culturelle. Et vous parlez, vous, notamment dans votre ouvrage, des politiques de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une politique de reconnaissance et en quoi c'est important de la mener ?
Alors, en principe, les politiques de reconnaissance, c'est ce qui existe dans les sociétés multiculturelles, où on peut justement légiférer sur des groupes, ou en tout cas avoir des mesures un peu plus particularistes. Donc, si aux États-Unis, par exemple, vous aurez l'État fédéral américain qui va vous dire, c'est ce qu'on appelle les identités à tiroir. Vous savez, l'État américain reconnaît l'apport des Italo-Américains et en échange, eux, ils se rangent sous la bannière étoilée et se définissent comme des vrais Américains. Bon. Normalement, dans un modèle universaliste, ça n'existe pas. Mais il y a quand même des possibilités. Je vais prendre un exemple, l'information selon laquelle il pourrait y avoir un jour un musée de l'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier, ça ne va pas contre l'universalisme parce que ça concerne l'ensemble de la nation. Ça ne va pas contre la laïcité, ça ne concerne pas la religion. Ça ne va pas contre l'individualisme, parce que l'ensemble des individus peuvent être concernés par l'histoire de France. Et après tout, ça voudrait dire, est-ce que ce pays est capable de porter un regard lucide sur l'histoire coloniale ? J'ai dit lucide, je n'ai pas dit anticolonialiste ou pro, ceci, ce n'est pas du tout ça. Un récit historique vrai, mais qui permettrait, je pense, d'aider un peu à faire société.
Et pourtant, il n'a pas vu le jour, ce musée. Donc, c'est que finalement,
on n'est pas mûr. Je sais que la personne qui s'occupait de ce projet, c'était une conservatrice, Florence Ludovitz, et un conseiller scientifique, un responsable scientifique, Jean-Robert Henry, que je connais très bien, qui est à Aix-en-Provence. Le musée était prêt. Oui. M. Sorel a été élu, il a décidé de le remplacer par le MOCO. Moi, j'y peux rien, mais je veux dire, il était fait.
Oui, il était prêt, oui.
Ça, c'est une décision politique qui n'est pas de mon ressort.
Alors, donc, le dernier chapitre de votre livre interroge la race. Pourquoi la race revient toujours? On ne va pas trop s'y arrêter, mais en gros, vous posez une question qui est très intéressante. C'est pourquoi le racisme continue alors qu'il est acté que la race biologique n'existe pas. Et vous montrez même que cette race, elle est aussi utilisée par le courant antiraciste, finalement. Est-ce que vous pouvez, on a peut-être deux minutes pour développer rapidement ça.
Je vais assez vite, même si il faudrait se pencher un peu, mais les biologistes comme Jacquard nous ont dit que finalement, il y avait plus de différences à l'intérieur d'une population que d'une population à une autre. Donc, la notion de race, sur le plan scientifique, elle est fausse. Le problème, c'est qu'une notion peut être fausse, mais quand même être utilisée dans le débat politique. Donc, le problème, c'est que ça a circulé. C'est-à-dire qu'on a eu le racisme avec la race, Gobineau, etc., etc., les penseurs racistes. Ensuite, il y a des gens qui ont dit on va combattre le racisme en expliquant que la race n'existe pas. L'antiracisme sans la race. Et puis, vous avez des gens qui ont dit on va refaire du racisme, mais en faisant disparaître la race et en la déguisant sous le manteau de la culture, la nouvelle droite, etc. Donc là, le racisme sans la race déguisé.
Choc des civilisations.
C'est un peu ça. Oui. Mauvais usage du livre, parce qu'il est plus compliqué que ça, mais évidemment, c'est un peu ça. Et puis, dernier avatar de cette affaire-là, les gens qui se mobilisent avec une identité de racisé pour lutter contre le racisme et qui remettent de la race dans l'antiracisme. Donc vous voyez que la notion peut être fausse, elle circule, et on croyait que Jacquard nous en avait débarrassé, que Lévi-Strauss nous en avait débarrassé, et pourtant elle circule, et elle n'a pas besoin d'être vraie, il lui suffit d'être parlé dans le débat politique, ou dans les mobilisations.
Alors, vous terminez votre livre par trois exemples de dissonance, trois mauvaises questions, si on peut dire. L'islam est-il compatible avec la République? On l'a abordé. La peur du communautarisme et le retour de l'identité nationale. Alors, justement, à l'aube d'un nouveau projet de loi qui entre à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on est toujours dans ce prisme-là? Est-ce qu'on a toujours une rhétorique de la menace contre l'identité nationale dans le gouvernement actuel?
Manifestement, ça arrive chez les élites. La preuve, la réinterrogation en permanence de la République, du risque de faillite du modèle républicain, etc. Maintenant, alors, le communautarisme, d'ailleurs, c'est lié à ça. Je rappelle que c'est un mot qui a été inventé dans le vocabulaire médiatique et politique. La tradition sociologique connaît communauté et société. Communautarisme, je n'ai jamais vu un savant utiliser ce terme. Un ministre, oui. Des journalistes, oui. Mais jamais dans la recherche. Et je vous signale qu'un système communautaire, c'est l'Empire ottoman. C'est-à-dire, si vous êtes juif et que vous faites une infraction, vous êtes jugé par un tribunal rabbinique. Si vous êtes musulman et que vous commettez une infraction, vous êtes jugé par un cheikh. En France, que je sache, c'est devant un juge de la République, c'est pas les communautés qui régulent les comportements des membres. Donc, je veux dire, parler toujours de menaces communautaires, bon, c'est méconnaître ce que veut dire le terme de communauté. Donc, effectivement, je ne pense pas que l'identité nationale soit menacée par le communautarisme.
Et on terminera là-dessus, c'est parfait. Un grand merci vraiment, Éric Savarez. Donc on conseille à tous les auditeurs et toutes les auditrices votre ouvrage, 10 questions sur l'immigration. Je redis pas, sorti chez
De Book,
merci. Voilà. Donc à mettre dans toutes les mains pour une meilleure compréhension du vivre ensemble et de la citoyenneté. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.